deuxième partie, chapitre 6. Vous parliez des sept princesses, duchesse. Vous savez, je n'en suis pas plus fière pour ça, que l'auteur de ce... comment dirais-je... de ce factum est un de mes compatriotes, dit M. d'Argencourt avec une ironie mêlée de la satisfaction de connaître mieux que les autres l'auteur d'une œuvre dont on venait de parler. « Oui, il est belge de son état, » ajouta-t-il. « Vraiment ? Non, nous ne vous accusons pas d'être pour quoi que ce soit dans les sept princesses. Heureusement pour vous et pour vos compatriotes, vous ne ressemblez pas à l'auteur de cette ineptie. Je connais des Belges très aimables. Vous, votre roi, qui est un peu timide mais plein d'esprit. Mes cousins Ligne et bien d'autres. Mais heureusement, vous ne parlez pas le même langage que l'auteur des sept princesses. Du reste, si vous voulez que je vous dise, c'est trop d'en parler, parce que surtout, ce n'est rien. Ce sont des gens qui cherchent à avoir l'air obscur et au besoin qui s'arrangent d'être ridicules pour cacher qu'ils n'ont pas d'idée. S'il y avait quelque chose dessous, je vous dirais que je ne crains pas certaines audaces, ajouta-t-elle d'un ton sérieux. Du moment qu'il y a de la pensée. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce de Borelli. Il y a des gens que cela a choqués. Moi, quand je devrais me faire lapider, ajouta-t-elle sans se rendre compte qu'elle ne courait pas de grands risques. J'avoue que j'ai trouvé cela infiniment curieux. Mais les sept princesses, l'une d'elles a beau avoir des bontés pour son neveu, je ne peux pas pousser les sentiments de famille. La duchesse s'arrêta net, car une dame entrait, qui était la vicomtesse de Marsante, la mère de Robert. Madame de Marsante était considérée dans le faubourg Saint-Germain comme un être supérieur, d'une bonté, d'une résignation angélique. On me l'avait dit, et je n'avais pas de raison particulière pour en être surpris, ne sachant pas à ce moment-là qu'elle était la propre sœur du duc de Guermantes. Plus tard, j'ai toujours été étonnée chaque fois que j'appris, dans cette société, que des femmes mélancoliques, pures, sacrifiées, vénérées comme d'idéales saintes de vitrail, avaient fleuri sur la même souche généalogique que des frères brutaux, débauchés et vils. Des frères et sœurs, quand ils sont tout à fait pareils du visage, comme étaient le duc de Guermantes et madame de Marsantes, me semblait de voir en commun une seule intelligence, un même cœur, comme aurait une personne qui peut avoir de bons ou de mauvais moments, mais dont on ne peut attendre tout de même de vastes vues si elle est d'esprit borné, et une abnégation sublime si elle est de cœur dur. Madame de Marsante suivait les cours de Brunetière. Elle enthousiasmait le faubourg Saint-Germain, et, par sa vie de sainte, l'édifiait aussi. Mais la connexité morphologique du joli nez et du regard pénétrant incitait pourtant à classer madame de Marsantes dans la même famille intellectuelle et morale que son frère le duc. Je ne pouvais croire que le seul fait d'être une femme, et peut-être d'avoir été malheureuse et d'avoir l'opinion de tous pour soi, pouvait faire qu'on fût aussi différent des siens. Comme dans les chansons de gestes, où toutes les vertus et les grâces sont réunies en la sœur de frère farouche. Il me semblait que la nature, moins libre que les vieux poètes, devait se servir à peu près exclusivement des éléments communs à la famille, et je ne pouvais lui attribuer tel pouvoir d'innovation qu'elle fit, avec des matériaux analogues à ceux qui composaient un sceau et un rustre, un grand esprit sans aucune tare de sottise, une sainte sans aucune souillure de brutalité. Madame de Marsantes avait une robe de surat blanc à grandes palmes, sur lesquelles se détachaient des fleurs en étoffe, lesquelles étaient noires. C'est qu'elle avait perdu, il y a 3 semaines, son cousin, M. de Montmorency, ce qui ne l'empêchait pas de faire des visites, d'aller à de petits dîners, mais en deuil. C'était une grande dame. Par atavisme, son âme était remplie par la frivolité des existences de cour, avec tout ce qu'elles ont de superficiel et de rigoureux. Madame de Marsante n'avait pas eu la force de regretter longtemps son père et sa mère, mais pour rien au monde elle n'eût porté de couleur dans le mois qui suivait la mort d'un cousin. Elle fut plus qu'aimable avec moi parce que j'étais l'amie de Robert et parce que je n'étais pas du même monde que Robert. Cette bonté s'accompagnait d'une feinte timidité, de l'espèce de mouvement de retrait intermittent de la voix, du regard, de la pensée qu'on ramène à soi, comme une jupe indiscrète, pour ne pas prendre trop de place, pour rester bien droite, même dans la souplesse, comme le veut la bonne éducation. Bonne éducation, qu'il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre d'ailleurs. Plusieurs de ces dames, versant très vite dans le dévergondage des mœurs, sans perdre jamais la correction presque enfantine des manières. Madame de Marsante agaçait un peu dans la conversation, parce que, chaque fois qu'il s'agissait d'un roturier, par exemple de Bergotte, d'Elstir, elle disait en détachant le mot, en le faisant valoir, et en le psalmodiant sur deux tons différents, en une modulation qui était particulière aux Guermantes. « J'ai eu l'honneur, le grand honneur, de rencontrer Monsieur Bergotte, de faire la connaissance de Monsieur Elstir. » Soit pour faire admirer son humilité, soit par le même goût qu'avait Monsieur de Guermantes, de revenir aux formes désuètes pour protester contre les usages de mauvaise éducation actuelle où on ne se dit pas assez honoré. Quelle que fût celle de ces deux raisons qui fût la vraie, de toute façon, on sentait que, quand Madame de Marsante disait « J'ai eu l'honneur, le grand honneur », elle croyait remplir un grand rôle et montrer qu'elle savait accueillir les noms des hommes de valeur comme elle les eût reçus eux-mêmes dans son château, s'ils s'étaient trouvés dans le voisinage. D'autre part, comme sa famille était nombreuse, qu'elle l'aimait beaucoup, que, lente de débit et amie des explications, elle voulait faire comprendre les parentés, elle se trouvait, sans aucun désir d'étonner et tout en aimant sincèrement parler que de paysans touchants et de garde-chasse sublimes, citer à tout instant toutes les familles médiatisées d'Europe, ce que les personnes moins brillantes ne lui pardonnaient pas, et, si elles étaient un peu intellectuelles, raillaient comme de la stupidité. À la campagne, Madame de Marsante était adorée pour le bien qu'elle faisait, mais surtout parce que la pureté d'un sang, où depuis plusieurs générations on ne rencontrait que ce qu'il y a de plus grand dans l'histoire de France, avait ôté à sa manière d'être tout ce que les gens du peuple appellent « des manières » et lui avait donné la parfaite simplicité. Elle ne craignait pas d'embrasser une pauvre femme qui était malheureuse et lui disait d'aller chercher un char de bois au château. C'était, disait-on, la parfaite chrétienne. Elle tenait à faire faire un mariage colossalement riche à Robert. Être grande dame, c'est jouer à la grande dame, c'est-à-dire, pour une part, jouer la simplicité. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher, d'autant plus que la simplicité ne ravit qu'à la condition que les autres sachent que vous pourriez ne pas être simple, c'est-à-dire que vous êtes très riche. On me dit plus tard, quand je racontais que je l'avais vue, « Vous avez dû vous rendre compte qu'elle a été ravissante !» Mais la vraie beauté est si particulière, si nouvelle, qu'on ne la reconnaît pas pour la beauté. Je me dis seulement ce jour-là qu'elle avait un nez tout petit, des yeux très bleus, le cou long et l'air triste. « Écoute !» dit Madame de Villeparisis à la duchesse de Guermantes. « Je crois que j'aurai tout à l'heure la visite d'une femme que tu ne veux pas connaître. J'aime mieux te prévenir pour que cela ne t'ennuie pas. D'ailleurs, tu peux être tranquille, je ne l'aurai jamais chez moi plus tard. mais elle doit venir pour une seule fois aujourd'hui. C'est la femme de Swann. » Madame Swann, voyant les proportions que prenait l'affaire Dreyfus et craignant que les origines de son mari ne se tournassent contre elle, l'avait supplié de ne plus jamais parler de l'innocence du condamné. Quand il n'était pas là, elle allait plus loin et faisait profession du nationalisme le plus ardent. Elle ne faisait que suivre en cela, d'ailleurs, Madame Verdurin, chez qui un antisémitisme bourgeois et latent s'était réveillé et avait atteint une véritable exaspération. Madame Swann avait gagné à cette attitude d'entrer dans quelques-unes des ligues de femmes du monde antisémite qui commençaient à se former et avait noué des relations avec plusieurs personnes de l'aristocratie. Il peut paraître étrange que, loin de les imiter, la duchesse de Guermantes, si amie de Swann, eut au contraire toujours résisté au désir qu'il ne lui avait pas caché de lui présenter sa femme. Mais on verra plus tard que c'était un effet du caractère particulier de la duchesse, qui jugeait qu'elle n'avait pas à faire telle ou telle chose, et imposait avec despotisme ce qu'avait décidé son libre arbitre mondain, fort arbitraire. « Je vous remercie de me prévenir, répondit la duchesse. Cela me serait en effet très désagréable. Mais comme je la connais de vue, je me lèverai à temps. » Je t'assure, Oriane, elle est très agréable, c'est une excellente femme, dit madame de Marsantes. Je n'en doute pas, mais je n'éprouve aucun besoin de m'en assurer par moi-même. Est-ce que tu es invitée chez Lady Israël ? Demanda madame de Villeparisis à la duchesse pour changer la conversation. Mais, Dieu merci, je ne la connais pas, répondit madame de Guermantes. C'est à Marie Hénard qu'il faut demander cela. Elle la connaît, et je me suis toujours demandé pourquoi. Je l'ai en effet connue, répondit madame de Marsantes. Je confesse mes erreurs, mais je suis décidée à ne plus la connaître. Il paraît que c'est une des pires et qu'elle ne s'en cache pas. Du reste, nous avons tous été trop confiants, trop hospitaliers. Je ne fréquenterai plus personne de cette nation. Pendant qu'on avait de vieux cousins de province du même sang à qui on fermait sa porte, on l'ouvrait aux Juifs. Nous voyons maintenant leurs remerciements. Hélas, je n'ai rien à dire. J'ai un fils adorable et qui débite, en jeune fou qu'il est, toutes les insanités possibles, ajouta-t-elle en entendant que M. d'Argencourt avait fait allusion à Robert. Mais à propos de Robert, est-ce que vous ne l'avez pas vu ? Demanda-t-elle à madame de Villeparisis. Comme c'est samedi, je pensais qu'il aurait pu passer 24 heures à Paris, et dans ce cas, il serait sûrement venu vous voir. En réalité, madame de Marsantes pensait que son fils n'aurait pas de permission. Mais comme, en tout cas, elle savait que s'il en avait eu une, il ne serait pas venu chez madame de Villeparisis, elle espérait, en ayant l'air de croire qu'elle l'eût trouvé ici, lui faire pardonner par sa tante susceptible toutes les visites qu'il ne lui avait pas faites. « Robert ici ? Mais je n'ai pas même eu un mot de lui. Je crois que je ne l'ai pas vu depuis Balbec. »« Il est si occupé, il a tant à faire, » dit madame de Marsantes. Un imperceptible sourire fit onduler les cils de madame de Guermantes, qui regarda le cercle qu'avec la pointe de son ombrelle elle traçait sur le tapis. Chaque fois que le duc avait délaissé trop ouvertement sa femme, madame de Marsantes avait pris avec éclat contre son propre frère le parti de sa belle-sœur. Celle-ci gardait de cette protection un souvenir reconnaissant et rancunier, et elle n'était qu'à demi fâchée des fredaines de Robert. À ce moment, la porte s'étant ouverte de nouveau, celui-ci entra. « Tiens, quand on parle du Saint-Loup, » dit madame de Guermantes. Madame de Marsantes, qui tournait le dos à la porte, n'avait pas vu entrer son fils. quand elle l'aperçut. En cette mer, la joie battit véritablement comme un coup d'aile. Le corps de madame de Marsantes se souleva à demi, son visage palpita et elle attachait sur Robert des yeux émerveillés. « Comment tu es venu ? Quel bonheur ! Quelle surprise ! Ah ! Quand on parle du Saint-Loup, je comprends !» dit le diplomate belge riant aux éclats. « C'est délicieux !» répliqua sèchement madame de Guermantes, qui détestait les calembours et n'avait hasardé celui-là qu'en ayant l'air de se moquer d'elle-même. « Bonjour, Robert » dit-elle. « Eh bien, voilà comme on oublie sa tante !» Ils causèrent un instant ensemble, et sans doute de moi, car tandis que Saint-Loup se rapprochait de sa mère, madame de Guermantes se tourna vers moi. « Bonjour, comment allez-vous ? » me dit-elle. Elle laissa pleuvoir sur moi la lumière de son regard bleu, hésita un instant, déplia et tendit la tige de son bras, pencha en avant son corps, qui se redressa rapidement en arrière comme un arbuste qu'on a couché et qui, laissé libre, revient à sa position naturelle. Ainsi agissait-elle sous le feu des regards de Saint-Loup, qui l'observait et faisait à distance des efforts désespérés pour obtenir un peu plus encore de sa tante. Craignant que la conversation ne tombât, il vint l'alimenter et répondit pour moi. « Il ne va pas très bien, il est un peu fatigué. Du reste, il irait peut-être mieux s'il te voyait plus souvent, car je ne te cache pas qu'il aime beaucoup te voir. » « Ah, mais c'est très aimable !» dit madame de Guermantes d'un ton volontairement banal, comme si je lui eusse apporté son manteau. « Je suis très flattée. Tiens, je vais un peu près de ma mère, je te donne ma chaise, » me dit Saint-Loup en me forçant ainsi à m'asseoir à côté de sa tante. Nous nous tûmes tous deux. « Je vous aperçois quelquefois le matin, » me dit-elle comme si ce fût une nouvelle qu'elle m'eût apprise, et comme si moi je ne la voyais pas. « Ça fait beaucoup de bien à la santé. »«
Oriane !» dit à mi-voix madame de Marsantes. « Vous disiez que vous alliez voir madame de Saint-Féréol. Est-ce que vous auriez été assez gentille pour lui dire qu'elle ne m'attende pas à dîner ? Je resterai chez moi puisque j'ai Robert. » Si même j'avais osé vous demander de dire en passant qu'on achète tout de suite de ces cigares que Robert aime. Ça s'appelle des Corona, il n'y en a plus. »
Robert se rapprocha. Il avait seulement entendu le nom de madame de Saint-Féréol.
« Qu'est-ce que c'est encore que ça, madame de Saint-Féréol ? »
demanda-t-il sur un ton d'étonnement et de décision, car il affectait d'ignorer tout ce qui concernait le monde.
« Mais voyons, mon chéri, tu sais bien !» dit sa mère. « C'est la sœur de Vermandois. C'est elle qui t'avait donné ce beau jeu de billard que tu aimais tant. »«
Comment ? C'est la sœur de Vermandois ? Je n'en avais pas la moindre idée. Ah ! Ma famille est épatante !»
dit-il en se tournant à demi vers moi et en prenant, sans s'en rendre compte, les intonations de Bloch, comme il empruntait ses idées.
« Elle connaît des gens inouïs, des gens qui s'appellent plus ou moins Saint-Féréol. »
Et détachant la dernière consonne de chaque mot, « Elle va au bal, elle se promène en Victoria, elle mène une existence fabuleuse, c'est prodigieux !»
Madame de Guermantes fit avec la gorge ce bruit léger, bref et fort, comme d'un sourire forcé qu'on ravale, et qui était destiné à montrer qu'elle prenait part, dans la mesure où la parenté l'y obligeait, à l'esprit de son neveu. On vint annoncer que le prince de Pfaffenheim-Münsterburg-Wenningen faisait dire à monsieur de Norpois qu'il était là. « Allez le chercher, monsieur !» dit madame de Villeparisis à l'ancien ambassadeur, qui se porta au-devant du premier ministre allemand. Mais la marquise le rappela. « Attendez, monsieur, faudra-t-il que je lui montre la miniature de l'impératrice Charlotte ?»«
Ah, oh,
Je crois qu'il sera ravi, dit l'ambassadeur d'un ton pénétré, et comme s'il enviait ce fortuné ministre de la faveur qu'il attendait.
Ah, je sais qu'il est très bien pensant, dit madame de Marsante, et c'est si rare parmi les étrangers. Mais je suis renseignée, c'est l'antisémitisme en personne.
Le nom du prince gardait, dans la franchise avec laquelle ses premières syllabes étaient, comme on dit en musique, attaquées, et dans la bégayante répétition qui les scandait, l'élan, la naïveté maniérée, les lourdes délicatesses germaniques projetées comme des branchages verdâtres sur le heim, des mailles bleu sombre qui déployaient la mysticité d'un vitrail rhénan, derrière les dorures pâles et finement ciselées du XVIIIe siècle allemand. Ce nom contenait, parmi les noms divers dont il était formé, celui d'une petite ville d'eau allemande, où tout enfant j'avais été avec ma grand-mère, au pied d'une montagne honorée par les promenades de Goethe, et des vignobles de laquelle nous buvions au Kurhof les crus illustres à l'appellation composée et retentissante comme les épithètes qu'Homère donne à ses héros. Aussi, à peine eus-je entendu prononcer le nom du prince, qu'avant de m'être rappelé la station thermale, il me parut diminuer, s'imprégner d'humanité, trouver assez grande pour lui une petite place dans ma mémoire, à laquelle il adhéra, familier, terre-à-terre, pittoresque, savoureux, léger, avec quelque chose d'autorisé, de prescrit. Bien plus, M. de Guermantes, en expliquant qui était le prince, cita plusieurs de ses titres, et je reconnus le nom d'un village traversé par la rivière où chaque soir, la cure finie, j'allais en barque à travers les moustiques, et celui d'une forêt assez éloignée pour que le médecin ne m'eût pas permis d'y aller en promenade. Et en effet, il était compréhensible que la suzeraineté du Seigneur s'étendit aux lieux circonvoisins et associât à nouveau dans l'énumération de ses titres les noms qu'on pouvait lire à côté les uns des autres sur une carte. Ainsi, sous la visière du prince du Saint-Empire et de l'écuyer de Franconie, ce fut le visage d'une terre aimée où s'étaient souvent arrêtés pour moi les rayons du soleil de 6 heures, que je vis, du moins avant que le prince Ringrave et électeur palatin fût entré. Car j'appris, en quelques instants, que les revenus qu'il tirait de la forêt et de la rivière, peuplés de gnomes et d'ondines, de la montagne enchantée où s'élève le vieux Burg, qui garde le souvenir de Luther et de Louis le Germanique, il en usait pour avoir 5 automobiles charrons, un hôtel à Paris et un à Londres, une loge le lundi à l'Opéra et une au Mardi des Français. Il ne me semblait pas, et il ne semblait pas lui-même le croire, qu'il différât des hommes de même fortune et de même âge qui avaient une moins poétique origine. Il avait leur culture, leur idéal, se réjouissait de son rang, mais seulement à cause des avantages qu'il lui conférait, et n'avait plus qu'une ambition dans la vie, celle d'être élu membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, raison pour laquelle il était venu chez madame de Villeparisis. Si lui, dont la femme était à la tête de la coterie la plus fermée de Berlin, avait sollicité d'être présenté chez la marquise, ce n'était pas qu'il en eût éprouvé d'abord le désir. Rongé depuis des années par cette ambition d'entrer à l'Institut, il n'avait malheureusement jamais pu voir monter au-dessus de 5 le nombre des académiciens qui semblaient prêts à voter pour lui. Il savait que M. de Norpois disposait à lui seul d'au moins une dizaine de voix, auquel il était capable, grâce à d'habiles transactions, d'en ajouter d'autres. Aussi, le prince qu'il avait connu en Russie quand ils y étaient tous deux ambassadeurs, était-il allé le voir, et avait-il fait tout ce qu'il avait pu pour se le concilier? Mais il avait eu beau multiplier les amabilités,
faire avoir au marquis des décorations russes, le citer dans des articles de politique étrangère. Il avait eu devant lui un ingrat, un homme pour qui toutes ses prévenances avaient l'air de ne pas compter, qui n'avait pas fait avancer sa candidature d'un pas, ne lui avait même pas promis sa voix. Sans doute, M. de Norpois le recevait avec une extrême politesse, mais ne voulait pas qu'il se dérangeât, et prit la peine de venir jusqu'à sa porte. Se rendait lui-même à l'hôtel du prince, et quand le chevalier teutonique avait lancé « Je voudrais bien être votre collègue », répondait d'un ton pénétré « Oh, je serais très heureux !» Et sans doute un naïf, un docteur Cottard, se fût dit « Voyons, il est là chez moi, c'est lui qui a tenu à venir parce qu'il me considère comme un personnage plus important que lui. Il me dit qu'il serait heureux que je sois de l'Académie, les mots ont tout de même un sens, que diable ! Sans doute, s'il ne me propose pas de voter pour moi, c'est qu'il n'y pense pas. Il parle trop de mon grand pouvoir, il doit croire que les alouettes me tombent toutes rôties, que j'ai autant de voix que j'en veux. Et c'est pour cela qu'il ne m'offre pas la sienne. Mais je n'ai qu'à le mettre au pied du mur, là, entre nous deux, et à lui dire « Eh bien, votez pour moi !» Et il sera obligé de le faire. Mais le prince de Pfaffenheim n'était pas un naïf. Il était ce que le docteur Cottard eût appelé un fin diplomate. Et il savait que M. de Norpois n'en était pas un moins fin, ni un homme qui ne se fût pas avisé de lui-même qu'il pourrait être agréable à un candidat en votant pour lui. Le prince, dans ses ambassades et comme ministre des Affaires étrangères, avait tenu pour son pays, au lieu que ce fût comme maintenant pour lui-même, de ces conversations où on sait d'avance jusqu'où on veut aller et ce qu'on ne vous fera pas dire. Il n'ignorait pas que dans le langage diplomatique, « causer » signifie « offrir ». Et c'est pour cela qu'il avait fait avoir à M. de Norpois le cordon de Saint-André. Mais s'il eût dû rendre compte à son gouvernement de l'entretien qu'il avait eu après cela avec M. de Norpois, il eût pu énoncer dans sa dépêche « J'ai compris que j'avais fait fausse route ». Car dès qu'il avait recommencé à parler institut, M. de Norpois lui avait redit « J'aimerais cela beaucoup, beaucoup pour mes collègues. Ils doivent, je pense, se sentir vraiment honorés que vous ayez pensé à eux. C'est une candidature tout à fait intéressante, un peu en dehors de nos habitudes. Vous savez, l'Académie est très routinière. Elle s'effraye de tout, ce qui rend un son un peu nouveau. Personnellement, je l'en blâme. Que de fois il m'est arrivé de le laisser entendre à mes collègues. Je ne sais même pas, Dieu me pardonne, si le mot d'encrouter n'est pas sorti une fois de mes lèvres. » avait-il ajouté avec un sourire scandalisé, à mi-voix, presque aparté, comme dans un effet de théâtre, et en jetant sur le prince un coup d'œil rapide et oblique de son œil bleu, comme un vieil acteur qui veut juger de son effet. « Vous comprenez, prince, que je ne voudrais pas laisser une personnalité aussi éminente que la vôtre s'embarquer dans une partie perdue d'avance. Tant que les idées de mes collègues resteront aussi arriérées, j'estime que la sagesse est de s'abstenir. Croyez bien, d'ailleurs, que si je voyais jamais un esprit un peu plus nouveau, un peu plus vivant, se dessiner dans ce collège qui tente à devenir une nécropole, si j'escomptais une chance possible pour vous, je serais le premier à vous en avertir. » Le cordon de Saint-André est une erreur, pensa le prince. Les négociations n'ont pas fait un pas. Ce n'est pas cela qu'il voulait. Je n'ai pas mis la main sur la bonne clé. Et c'était un genre de raisonnement dont M. de Norpois, formé à la même école que le prince, eût été capable. On peut railler la pédantesque niaiserie avec laquelle les diplomates à la Norpois s'extasient devant une parole officielle à peu près insignifiante. Mais leur enfantillage a sa contrepartie. les diplomates savent que dans la balance qui assure cet équilibre, européen ou autre, qu'on appelle la paix, les bons sentiments, les beaux discours, les supplications pèsent fort peu, et que le poids lourd, le vrai, les déterminations, consistent en autre chose, en la possibilité que l'adversaire a, s'il est assez fort, ou n'a pas, de contenter, par moyen d'échange, un désir. Cet ordre de vérité, qu'une personne entièrement désintéressée comme ma grand-mère, par exemple, n'eût pas compris, monsieur de Norpois, le prince von, avait souvent été aux prises avec lui. Chargé d'affaires dans les pays avec lesquels nous avions été à deux doigts d'avoir la guerre, monsieur de Norpois, anxieux de la tournure que les événements allaient prendre, savait très bien que ce n'était pas par le mot « paix » ou par le mot « guerre » qu'il lui serait signifié, mais par un autre, banal en apparence, terrible ou béni, et que le diplomate, à l'aide de son chiffre, saurait immédiatement lire, et auquel, pour sauvegarder la dignité de la France, il répondrait par un autre mot, tout aussi banal, mais sous lequel le ministre de la nation ennemie verrait aussitôt « guerre ». Et même, selon une coutume ancienne, analogue à celle qui donnait au premier rapprochement de deux êtres promis l'un à l'autre la forme d'une entrevue fortuite à une représentation du théâtre du gymnase, le dialogue, où le destin dicterait le mot « guerre » ou le mot « paix », n'avait généralement pas eu lieu dans le cabinet du ministre, mais sur le banc d'un Kurgarten, où le ministre et M. de Norpois allaient l'un et l'autre à des fontaines thermales boire à la source de petits verres d'une eau curative. Par une sorte de convention tacite, ils se rencontraient alors de la cure, faisaient d'abord ensemble quelques pas d'une promenade que, sous son apparence bénigne, les deux interlocuteurs savaient aussi tragique qu'un ordre de mobilisation. Or, dans une affaire privée, comme cette présentation à l'Institut, le prince avait usé du même système d'induction qu'il avait fait dans sa carrière, de la même méthode de lecture à travers les symboles superposés. Et certes, on ne peut prétendre que ma grand-mère et ses rares pareils eussent été seuls à ignorer ce genre de calcul. En partie, la moyenne de l'humanité, exerçant des professions tracées d'avance, rejoint par son manque d'intuition l'ignorance que ma grand-mère devait à son haut désintéressement. Il faut souvent descendre jusqu'aux êtres entretenus, hommes ou femmes, pour avoir à chercher le mobile de l'action ou des paroles en apparence les plus innocentes dans l'intérêt, dans la nécessité de vivre. Quel homme ne sait que, quand une femme qu'il va payer lui dit « Ne parlons pas d'argent. » Cette parole doit être comptée, ainsi qu'on dit en musique, comme une mesure pour rien. Et que si plus tard elle lui déclare « Tu m'as fait trop de peine, tu m'as souvent caché la vérité, je suis à bout. » Il doit interpréter « Un autre protecteur lui offre davantage. » Encore n'est-ce là que le langage d'une cocotte assez rapprochée des femmes du monde. Les Apaches fournissent des exemples plus frappants. Mais M. de Norpois et le prince allemand, si les Apaches leur étaient inconnus, avaient accoutumé de vivre sur le même plan que les nations, lesquelles sont aussi, malgré leur grandeur, des êtres d'égoïsme et de ruse, qu'on ne dompte que par la force, par la considération de leur intérêt, qui peut les pousser jusqu'au meurtre. Un meurtre symbolique, souvent, lui aussi. La simple hésitation à se battre, ou le refus de se battre, pouvant signifier pour une nation « périr ». Mais comme tout cela n'est pas dit dans les livres jaunes et autres, le peuple est volontiers pacifiste. S'il est guerrier, c'est instinctivement, par haine, par rancune, non par les raisons qui ont décidé les chefs d'État avertis par les Norpois. L'hiver suivant, le prince fut très malade, Il guérit, mais son cœur resta irrémédiablement atteint.
« Diable ! » se dit-il. « Il ne faudrait pas perdre de temps pour l'Institut, car si je suis trop long, je risque de mourir avant d'être nommé. Ce serait vraiment désagréable. »
Il fit sur la politique de ces 20 dernières années une étude pour la Revue des Deux Mondes et s'y exprima à plusieurs reprises dans les termes les plus flatteurs sur M. de Norpois. Celui-ci alla le voir et le remercia. Il ajouta qu'il ne savait comment exprimer sa gratitude. Le prince se dit, comme quelqu'un qui vient d'essayer d'une autre clé pour une serrure, « Ce n'est pas encore celle-ci. » Et se sentant un peu essoufflé en reconduisant M. de Norpois, pensa « Sapristi, ces gaillards-là me laisseront crever avant de me faire entrer. Dépêchons !» Le même soir, il rencontra M. de Norpois à l'opéra. « Mon cher ambassadeur, lui dit-il, vous me disiez ce matin que vous ne saviez pas comment me prouver votre reconnaissance. C'est fort exagéré, car vous ne m'en devez aucune, mais je vais avoir l'indélicatesse de vous prendre au mot. » M. de Norpois n'estimait pas moins le tact du prince que le prince le sien. Il comprit immédiatement que ce n'était pas une demande qu'allait lui faire le prince de Pfaffenheim, mais une offre, et avec une affabilité souriante, il se mit en devoir de l'écouter.
« Voilà, vous allez me trouver très indiscret.
Il y a deux personnes auxquelles je suis très attaché, et tout à fait diversement, comme vous allez le comprendre, et qui se sont fixées depuis peu à Paris, où elles comptent vivre désormais. Ma femme et la grande duchesse Jean. Elles vont donner quelques dîners, notamment en l'honneur du roi et de la reine d'Angleterre, et leur rêve aurait été de pouvoir offrir à leurs convives une personne pour laquelle, sans la connaître, elles éprouvent toutes deux une grande admiration. J'avoue que je ne savais comment faire pour contenter leurs désirs quand j'ai appris tout à l'heure, par le plus grand des hasards, que vous connaissiez cette personne. Je sais qu'elle vit très retirée, ne veut voir que peu de monde, happy few. Mais si vous me donniez votre appui, avec la bienveillance que vous me témoignez, je suis sûre qu'elle permettrait que vous me présentiez chez elle et que je lui transmette le désir de la grande duchesse et de la princesse. Peut-être consentirait-elle à venir dîner avec la reine d'Angleterre, et qui sait si nous ne l'ennuyons pas trop, passer les vacances de Pâques avec nous à Beaulieu, chez la grande duchesse Jean. Cette personne s'appelle la marquise de Villeparisis. J'avoue que l'espoir de devenir l'un des habitués d'un pareil bureau d'esprit me consolerait, me ferait envisager sans ennui de renoncer à me présenter à l'Institut. Chez elle aussi, on tient commerce d'intelligence et de fine causerie. » Avec un sentiment de plaisir inexprimable, le prince sentit que la serrure ne résistait pas et qu'enfin cette clé-là y entrait. « Une telle option est bien inutile, mon cher prince, » répondit M. de Norpois. « Rien ne s'accorde mieux avec l'Institut que le salon dont vous parlez, et qui est une véritable pépinière d'académiciens. Je transmettrai votre requête à Madame la marquise de Villeparisis. Elle en sera certainement flattée. Quant à aller dîner chez vous, elle sort très peu, et ce sera peut-être plus difficile. Mais je vous présenterai, et vous plaiderez vous-même votre cause. Il ne faut surtout pas renoncer à l'académie. Je déjeune précisément de demain en 15, pour aller ensuite avec lui à une séance importante, chez le roi Beaulieu, sans lequel on ne peut faire une élection. J'avais déjà laissé tomber devant lui votre nom qu'il connaît, naturellement à merveille. Il avait émis certaines objections, mais il se trouve qu'il a besoin de l'appui de mon groupe pour l'élection prochaine, et j'ai l'intention de revenir à la charge. Je lui dirai très franchement les liens tout à fait cordiaux qui nous unissent. Je ne lui cacherai pas que, si vous vous présentiez, je demanderais à tous mes amis de voter pour vous. »
Le prince eut un profond soupir de soulagement. « Et il sait que j'ai des amis. J'estime que si je parvenais à m'assurer son concours, vos chances deviendraient fort sérieuses. Venez ce soir-là à 6 heures chez Madame de Villeparisis. Je vous introduirai, et je pourrai vous rendre compte de mon entretien du matin. »
C'est ainsi que le prince de Pfaffenheim avait été amené à venir voir Madame de Villeparisis. Ma profonde désillusion eut lieu quand il parla. Je n'avais pas songé que, si une époque a des traits particuliers et généraux plus forts qu'une nationalité, de sorte que, dans un dictionnaire illustré où l'on donne jusqu'au portrait authentique de Minerve, Leibniz avec sa perruque et sa fraise diffère peu de Marivaux ou de Samuel Bernard. Une nationalité a des traits particuliers plus forts qu'une caste. Or, ils se traduisirent devant moi, non par un discours où je croyais d'avance que j'entendrais le frôlement des elfes et la danse des kobolds, mais par une transposition qui ne certifiait pas moins cette poétique origine. Le fait qu'en s'inclinant, petit, rouge et ventru, devant Madame de Villeparisis, le rein grave lui dit « Bonjour, patame la marquise !» avec le même accent qu'un concierge alsacien. « Vous ne voulez pas que je vous donne une tasse de thé ou un peu de tarte? Elle est très bonne !» me dit Madame de Guermantes, désireuse d'avoir été aussi aimable que possible. « Je fais les honneurs de cette maison comme si c'était la mienne » ajouta-t-elle sur un ton ironique qui donnait quelque chose d'un peu guttural à sa voix, comme si elle avait étouffé un rire rauque. « Monsieur, dit Madame de Villeparisis à Monsieur de Norpois, vous penserez tout à l'heure que vous avez quelque chose à dire au prince au sujet de l'académie ?» Madame de Guermantes baissa les yeux, fit faire un quart de cercle à son poignet pour regarder l'heure. « Oh, mon Dieu, il est temps que je dise au revoir à ma tante, si je dois encore passer chez Madame de Saint-Féréol, et je dîne chez Madame le Roi. » Et elle se leva sans me dire adieu. Elle venait d'apercevoir Madame Swann, qui parut assez gênée de me rencontrer. Elle se rappelait sans doute qu'avant personne, elle m'avait dit être convaincue de l'innocence de Dreyfus. « Je ne veux pas que ma mère me présente à Madame Swann, » me dit Saint-Loup. « C'est une ancienne grue. Son mari est juif et elle nous le fait au nationalisme. Tiens, voici mon oncle Palamède. »